De retour sur les ondes de Pastel FM, il est 21h08. S'excuse, on a pris un peu de retard effectivement, c'est allongé un tout petit peu. Hassan, salam alaikum.
Alaikum salam, alhamdoulilah. Rachid,
salam alaikum. Salam alaikum. On sera avec nous, Inch'Allah, il va faire l'émission ce soir avec nous. Ce soir, normalement on devait faire un petit spécial avec Omar Hassan, malheureusement, enfin, heureusement il est encore au pays. Et Inch'Allah, on attend un appel pour parler d'Averroès, le lycée Averroès, savoir où on en est aujourd'hui, étant donné qu'à ce jour, alhamdoulilah, le lycée a eu son accréditation, en tout cas au niveau de l'État. Donc les professeurs, Inch'Allah, seront payés par l'État. Il fallait trouver pas mal d'argent, alhamdoulilah, avec... la solidarité de la communauté musulmane et lilloise dans le département au niveau plus large. Donc le projet a pu aboutir, alhamdoulilah. Donc on attend un appel de M. Oufkir, c'est bien ça,
directeur,
Inch'Allah, qui nous en dira un peu plus sur les avancées du projet et puis les attentes. Moi, avant de commencer, je voudrais peut-être intervenir simplement sur une chose. Il y a une personne qui est décédée hier sur Tourcoing, Allah yarhamha. Donc un jeune garçon de 22 ans qui s'appelle Madani et qui est malade depuis 4 ans d'un cancer. Il est décédé après 4 ans réellement de souffrance, quoi. Chimiothérapie, vraiment, il est mort vraiment dans la souffrance, Allah yarhamha. Et peut-être un petit rappel sur le fait de mourir. Alhamdoulilah, dirons-nous, il est mort, en tout cas pendant ce mois béni. Peut-être un petit rappel sur ça.
Bismillah, alhamdoulilah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, la mort est une vérité. Waja'at sakratul mawti bil haqq. Dieu le dit dans la sourate Qaf, et lorsque la mort arrive, c'est une vérité que personne ne peut contester. Idha ja'a ajaluhum. Lorsque l'heure arrive, personne ne peut la retarder ni l'avancer, aucun n'arriverait pas. Donc c'est une vérité, c'est une réalité, c'est une boisson à laquelle tout le monde va goûter. Alors l'inconnu, c'est quoi? C'est le moment, le jour. Et personne ne sait quand il rendra l'âme. C'est pour cela que le musulman doit toujours être prêt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith sahih rapporté par Abdullah ibn Umar, lorsque vous réveillez le matin, n'attendez pas le soir. C'est-à-dire, imaginez-vous que ce jour-là, vous pouvez partir. Et le soir, lorsque vous voulez vous endormir, imaginez-vous que c'est votre dernière nuit. Pour nous inciter au repentir, pour nous inciter à quoi? À essayer d'emmagasiner le maximum de bonnes actions, parce que la mort peut frapper à la porte de n'importe qui. Celui qui est en bonne santé, ou celui qui est malade. Le jeune, ou celui qui est âgé. Le riche et le pauvre. Pas de distinction. C'est une justice divine, tout le monde y goûtera pour pouvoir retourner rendre des comptes. Maintenant, il est vrai qu'il y a mort et mort. Et le hadith est clair, lorsque Dieu aime quelqu'un, avant de le rappeler vers lui, il le rend malade. Pourquoi? Pour justement l'alléger. L'alléger de ses souffrances. Le hadith, c'est un hadith Qudsi, c'est une parole divine, il dit... Lorsque Dieu dit, parle, il dit, lorsque j'aime mon serviteur, je le rends malade afin que tous ses péchés soient effacés. Et s'il lui reste encore des péchés, alors l'ivresse de la mort devient pour lui un supplice pour qu'il me rencontre comme le jour où il est né, c'est-à-dire sans péché. Et d'ailleurs, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est tombé malade avant de mourir. Lorsqu'Abdullah ibn Abbas l'a vu fiévreux, il lui dit, oh, envoyé de Dieu, tu souffres. Il lui dit, bien sûr. Je souffre deux fois plus qu'un homme ordinaire. Il lui dit, est-ce parce que tu seras doublement récompensé? Il lui dit, ajal, c'est évident. Lorsque Dieu aime quelqu'un, il l'épure, il le purifie de quoi? De ses fautes sur terre, pour qu'il n'ait plus de compte à rendre dans l'au-delà. Deuxième mort, c'est la mort à des moments bien précis, et surtout pendant le mois de Ramadan. Le hadith est clair, celui qui décède pendant le mois de Ramadan ne connaîtra pas le premier choc de la tombe, Dhammatul Qabr. Hein? Lorsque les gens sont enterrés, il y a un choc. Il y a même le hadith qui dit les côtes vont jusqu'à s'entrelacer, tellement il est écrasé, étouffé, le mort. Et celui-là, il ne connaîtra pas cela, parce qu'il est décédé pendant le Ramadan. Surtout le jour du vendredi, le hadith dit même que ses péchés sont effacés, celui qui décède ce jour-là pendant le Ramadan. Donc que Dieu ait pitié de notre frère Madani, et qu'il purifie de tous ses péchés, et qu'il lui offre une place au paradis, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Dieu offre la patience à sa famille. Parce que lui, alhamdoulilah, il est mort jeune, donc avec peu de péchés. Et plus on est vivant, plus il y a de risques à ce qu'on commette des péchés. Plus on est jeune, moins on en commet. Donc c'est déjà un avantage. Secondo, la vraie problématique, c'est celle des vivants, qui doivent accepter cette épreuve. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, pour réconforter les parents, que tout parent qui perde des enfants, et qui patientent, et qui disent qu'on vient de Dieu, que nous allons retourner vers Dieu, Dieu leur construit une demeure au paradis qui s'appelle Beytul Hamd, la demeure de la louange. Parce que Dieu interpelle les anges en disant, vous avez pris l'âme, par mon ordre bien entendu, de mon serviteur. Comment ses parents ont réagi? Dieu le sait, mais c'est pour que nous nous sachions. Les anges disent au Seigneur, ils ont patienté, ils ont dit Alhamdulillah. Et Dieu dira aux anges, alors, construisez-leur une demeure au paradis et nommez-la Beytul Hamd. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de celui qui perd un enfant en bas âge, que le jour de la résurrection, Dieu dira aux parents, entrez au paradis. Dieu dira aux enfants innocents qui sont morts en bas âge, entrez au paradis. Et les enfants réagiront en disant, non Seigneur, on ne peut pas être comblé si nous n'entrons pas au paradis avec nos parents. Et Dieu dira à ses enfants, prenez vos parents par la main et entrez au paradis. Donc les parents doivent patienter, afin que ce malheur se transforme en bonheur, dans le sens où, alhamdoulilah, leur fils, inchallah, est au paradis, et celui sur qui 40 personnes ou 4 ans de gens prient, il est pardonné. Et si des gens témoignent qu'il était quelqu'un de bien, ce témoignage est reconnu par Dieu. Même deux personnes. Le hadith va jusqu'à dire, si deux personnes témoignent de la bonté, de la rectitude de quelqu'un sur terre, Dieu tiendra compte de leur témoignage et la personne sera récompensée en fonction de ce témoignage. Donc c'est tout à son honneur et à l'honneur de sa famille. Allah alam. Donc on revient au Ramadan.
Inch'Allah. Oui. On va revenir à cette période de tout revenir. Tout à l'heure, on disait déjà le, ouais, c'est le 13e jour.
C'est 13e
jour. On arrive bientôt à la moitié de ce mois, non, béni, et il passe à une vitesse extraordinaire.
Tout à fait. On dirait qu'on se rapproche de la fin du monde, hein, puisque le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les signes de la fin du monde, c'est que le temps se rapprochera. C'est-à-dire, le temps va défiler à une allure beaucoup plus rapide. Bon, les jours sont toujours les mêmes de 24 heures, mais c'est notre mode de vie qui change, si bien que on est tellement occupé, on a tellement de choses à faire, on est tellement sollicité, on court dans tous les sens, si bien qu'on n'apprécie plus le temps. Hein, c'est notre monde moderne. Les gens qui vivent à la campagne, qui sont de moins en moins nombreux, ont plus d'opportunités pour apprécier justement le temps et la vie. Donc, c'est le mois de Ramadan, et le mois de Ramadan est truffé d'événements importants. Hein, si on fait l'histoire de l'islam, on verra qu'il y a eu des événements très importants qui sont arrivés pendant le mois de Ramadan. Il est bien de les connaître, pour connaître l'importance, la valeur du Ramadan, et surtout pour connaître l'impact du Ramadan sur les croyants, qui, parce que justement c'est le Ramadan, un mois béni, parce qu'ils sont en état d'adoration, en état de pureté, ça a un impact sur quoi? Sur les événements. Hein, on ne va pas entrer dans la problématique philosophique, est-ce l'histoire qui fait les hommes ou les hommes qui font l'histoire? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que nous, les hommes, nous sommes responsables de notre destin, c'est-à-dire on est capable de transformer notre destin en adoration. Et si on se laisse aller, notre futur, notre devenir ne sera pas joyeux. Alors le premier événement et le plus important qui a eu lieu pendant le Ramadan, c'est la révélation du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc c'est clair et net, on n'entre pas dans les détails. Alors c'est quel jour pendant le Ramadan? Peu importe, Dieu a dit c'est le mois de Ramadan. point final. Il n'a pas dit c'est le 17e, ni le 27e, ni le 21e. C'est un détail dont il ne faut pas tenir compte. Ce qui compte, c'est que le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan. Il aurait pu être révélé un autre mois. Mais si Dieu a choisi le mois de Ramadan, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, on la connaît, elle est claire et nette, c'est qu'il y a une relation intime. Il doit y avoir une relation intime entre le Ramadan et le Coran à travers, par le biais du croyant. C'est-à-dire, si le croyant, le musulman qui reconnaît le Coran comme la parole de Dieu, comme une guidance, Hudan dit, hein, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, Hudan linnas, wa bayyinatin min al-Huda. Donc celui qui considère le Coran comme une guidance, doit de surcroît, pendant le mois de Ramadan, redoubler d'efforts pour entrer en contact avec ce livre qui est une guidance. Et si le Coran est une guidance, c'est-à-dire si le Coran a pour objectif d'avoir un impact sur le croyant afin qu'il soit guidé, si le Coran a cet objectif, et il a cet objectif, bien entendu, pendant toute l'année, l'objectif est beaucoup plus prononcé pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, l'impact du Coran sur le croyant pendant le mois de Ramadan est plus important qu'en dehors du mois de Ramadan. Parce que les diables sont enchaînés, parce que le croyant est en état d'adoration, parce que les portes du ciel sont ouvertes, la miséricorde de Dieu, le pardon, etc., etc. D'un air de dire, c'est une aubaine, c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Profiter du mois de Ramadan, pourquoi ? Pour essayer de faire le maximum d'efforts pour lire le Coran, pour entendre le Coran, pour réciter le Coran, pour comprendre le Coran, pour distribuer des cassettes, des CD, des Corans en français, en arabe, à ceux qui n'en ont pas. Hein? Je veux dire, le mois de Ramadan doit être un mois de Coran vis-à-vis de nous et vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis des autres. Un exemple tout simple, par exemple, on est au mois de Ramadan, ça serait bien que dans les familles musulmanes, mais la journée, au lieu que la télé soit ouverte, et qu'on entende tout et n'importe quoi, et que l'on voit tout et n'importe quoi, bah autant mettre le Coran dans la maison toute la journée. Ouais. Comme ça, il y a de la baraka, les âmes négatives fuient, hein, les jeunes. Celui qui écoute le Coran est récompensé, celui qui le récite est récompensé. C'est du bénéfice net. Donc, le mois de Ramadan doit être différent des autres mois quant à notre relation avec qui ? Avec le Coran. D'accord ? C'est pour cela d'ailleurs que les musulmans s'efforcent pendant les nuits de Ramadan de réciter le Coran dans les prières. Ce qui est très bien. Mais on ne doit pas se contenter de ces récitations la nocturne, puisqu'il y en a qui n'ont pas la possibilité ni le temps d'aller à la mosquée. Donc il faut essayer de l'écouter, de le réciter ailleurs. On fait beaucoup de voitures, des commandes dans la voiture, hop, on enclenche la cassette, le CD, et on écoute le Coran. C'est ça. Si on fait du métro, du bus, du tramway, on met les écouteurs avec le bon CD. D'accord ? On ne se trompe pas. Parce que c'est le mois de Ramadan. Et ne croyez pas que le Coran n'a pas d'impact sur nos âmes. Attention, hein, le Coran a un impact sur l'âme. Parce que l'âme vient de Dieu. Et le Coran, c'est la parole de Dieu. Donc la nourriture du Coran, par excellence, la meilleure nourriture du Coran, c'est la parole de Dieu. Hein, là, c'est la meilleure des nourritures.
À Hassan, à présent, c'est un plaisir de répondre à vos questions. On a eu questions hors antenne qui ont été posées. À savoir par rapport à Taraweh, donc le fait d'aller prier au Jama'a, à la mosquée, le soir, pour ceux qui ne connaissent pas la prière de l'Aïcha, savoir que c'est prière surrogatoire. Est-ce qu'une femme doit demander l'autorisation à son mari ?
Cela ou est-ce ? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alors sachez que le mois de Ramadan donc est un mois de recueillement, un mois d'adoration particulier où il faut redoubler d'efforts pour adorer Dieu. Hein, c'est, si on dirait, pour rapprocher un peu la situation, une période de solde où il faut essayer de faire le maximum de bonnes actions parce que il y a un hadith rapporté par Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qui dit que la récompense et la valeur des prières et des actes surrogatoires pendant le mois de Ramadan équivaut à celle des actes obligatoires. Et l'acte obligatoire est 70 fois plus récompensé. C'est pour ça que le musulman fait plus d'efforts, que ce soit dans les prières, dans les sadaqas ou toute autre forme d'acte d'adoration et de bienfaisance. Alors, et en particulier, il y a les veillées nocturnes, c'est-à-dire les prières qu'accomplit le musulman la nuit, c'est-à-dire entre l'Aïcha et Sobh, entre l'Aïcha et Sobh. Et les prières, ces prières surrogatoires ont un nom spécifique qui est Tarawih. Pourquoi est-ce qu'on les appelle Tarawih? Parce que elles sont parfois assez longues, donc les musulmans font des pauses. Estarihun. Tarawihas, c'est le repos. Donc ils font des pauses. Ils prient quelques rakats, ils s'arrêtent, et ils recommencent. D'ailleurs, malheureusement, beaucoup d'imams ne respectent pas le sens littéral étymologique du terme. Ils font 11 rakats d'affilée, ils lisent 2 hizb à peu près, donc il y en a pour 45 minutes, voire peut-être une heure. Et c'est pas évident pour ceux qui ont 8 heures de travail dans les bottes et qui ont jeûné pendant 15 heures, ou ceux qui ont 70 ans, des tassements de vertèbres ou de l'arthrose, etc. Il serait bien que nos imams prient en fonction du plus faible qui se trouve derrière eux, et non pas en fonction de leur pêche, en fonction de leur engouement, en fonction de leur envie, parce qu'ils ne sont pas la référence. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair et net. L'imam doit prier par rapport à qui? Par rapport aux faibles, par rapport aux malades, par rapport aux enfants, par rapport aux femmes qui prient derrière, et non pas par rapport à ce qui lui plaît, à ce qu'il en vit ou à sa pêche. Lui, il a la pêche parce que toute la journée, il attend Tarawih, il fait rien d'autre. Et moi, j'ai pas la pêche. Moi, j'ai fait 12 heures de boulot et 15 heures de jeûne. Et le lendemain, je dois me réveiller et aller direct au travail. Je peux plus redormir. Donc ça, c'est le premier point. Secondo, la règle générale pour la femme, c'est que sa prière à la maison est meilleure que la prière à la mosquée, pour mille et une raisons. Ne serait-ce que parce qu'elle doit tenir sa maison, elle a des obligations, elle a tout un travail à faire chez elle qui est primordial, qui est beaucoup plus important que la prière à la mosquée. La prière faite chez elle a plus de valeur parce que justement elle est faite dans cette approche de l'adoration. La femme qui sert son mari, qui s'occupe de ses enfants, est en train d'adorer Dieu. Et ce n'est pas n'importe quelle adoration qu'elle fait. Elle fait une des plus belles adorations. La preuve, la prière à la mosquée est 27 fois plus importante. Celui qui prie à la mosquée sera 27 fois plus récompensé. Et la femme, si elle prie chez elle, elle est récompensée. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. C'est la règle. Mais rien n'empêche à la femme d'aller à la mosquée. Il n'y a aucun hadith qui l'interdit, au contraire. Les hadiths sont là pour dire, n'interdisez pas aux servantes de Dieu d'aller à la mosquée. Et les femmes, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit que la prière à la maison est meilleure qu'à la mosquée, les femmes allaient à la mosquée au temps du prophète, avaient même le souci de prier à la mosquée. Pourquoi? Pour profiter justement de l'ambiance qui est à la mosquée, pour profiter des discours qui sont à la mosquée, pour profiter de la présence des anges qui recouvrent les gens, pour profiter des invocations, des prières, et puis pour changer aussi. Je veux dire, c'est pas évident d'être aussi entre quatre murs. L'être humain, par nature, il aime quoi? Il aime le changement, il aime la rencontre des autres, ouais, qui lui apportent beaucoup. Donc, tout ça, quand on est dans un cadre musulman, dans une société musulmane, en ce qui nous concerne, nous qui sommes des musulmans d'Occident, la présence des musulmans, la présence des musulmanes, la présence des enfants à la mosquée n'est pas seulement souhaitable, elle frôle l'obligatoire. Car où voulez-vous que l'on s'imprègne de l'islam? Comment voulez-vous créer cette dimension communautaire dont nous parle le Coran sans arrêt, l'Ummah? Nous sommes une Ummah, nous sommes une entité spirituelle, une entité culturelle. Nous avons notre spécificité, bien que nous soyons des citoyens français. Comment exprimer, vivre, développer, consolider toute cette dimension communautaire si ce n'est que dans un lieu bien défini qui s'appelle la mosquée. D'accord? Et en plus de cela, malheureusement, parce qu'il n'y a pas assez de religiosité dans nos maisons, dans nos familles, il vaut mieux que les femmes et les enfants et les hommes soient à la mosquée que de rester à la maison à zapper, à regarder, à surfer, ou je ne sais trop ce qui se passe dans les demeures, malheureusement. Donc, moi je suis plus aujourd'hui pour que nous soyons présents dans la mosquée en famille. Vous entendez? Tout le monde. C'est-à-dire, je prends ma voiture, je prends ma femme et mes enfants, et je vais à la mosquée, et chacun trouve sa place. Alors, je fais cela sans que, c'est, que ça n'ait d'incidence sur quoi? Sur l'équilibre du foyer, sur mes devoirs en tant qu'épouse, en tant que mère, vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de ceux qui sont sous ma responsabilité à la maison. Donc, il faut qu'on trouve l'équilibre, essayer d'assumer tous nos devoirs sans qu'il y ait d'injustice, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres. Je dis ça, pourquoi? Parce que y a beaucoup de gens qui sont hostiles parfois à la présence des enfants à la mosquée le soir. Les enfants ne peuvent pas prier, ils ne prient pas. Donc automatiquement ils sont à la mosquée, ils font un peu de bruit, ils s'amusent, etc. Et il y a des gens qui sont très hostiles, qui disent non, les enfants il ne faut pas qu'ils viennent à la mosquée. Et ils mettent en avant une parole de Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qui dit écartez les enfants de la mosquée. D'accord. Alors en ce qui concerne cette parole de Omar ibn al-Khattab, si elle est véridique, hein, je ne connais pas son authenticité au niveau de la chaîne de transmission, mais en tout cas si elle est véridique, Omar a eu de bonnes raisons de la dire, et c'est son avis, et il était bon au moment où il l'a dit. Mais aujourd'hui, si Omar était présent avec nous, il dirait tout à fait le contraire: ramenez vos enfants à la mosquée, parce qu'il vaut mieux que nos enfants soient à la mosquée que devant la télé, c'est ça, ou sur internet, ou dans leur chambre en train de discuter par SMS ou MSN avec les copains et les copines.
Mais je crois que Hassan, la question est encore un peu plus complexe sur le côté de, je pense qu'elle demande le consentement du mari, effectivement. C'est parce que malheureusement pour elle, il y a un manque de communication extrême, je dirais, pour ne pas citer le nombre d'années, ça se compte en années quand même. Donc c'est ce côté-là. Oui. Ce qui fait que la demande est faite, c'est un peu, moi, comme dans tout couple, le mari et la femme se disputent. Le moment ne se parle pas, ne fût-ce 30 secondes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, est-ce que la femme, dans ce moment de dispute, doit demander l'autorisation à son mari quand elle va sortir, donc de surcroît pour aller à la mosquée?
Ah, bonne question. Donc, ça, c'était le premier volet de la question. Mm-hmm. On a rappelé l'importance, la valeur de la mosquée, de la présence, etc., etc. Maintenant, on entre dans un cas particulier qui est: il y a un conflit dans un couple. Donc, comme tu l'as très bien dit, Rachid, les conflits dans les couples, je crois que ça existe depuis que les couples existent, et ça continuera à exister. D'ailleurs, c'est ce qui met un peu de piment dans la vie des couples. Ce qui compte, c'est qu'on se dispute, on se réconcilie. On se dispute, on se réconcilie, pourvu que les disputes ne durent pas plus qu'il ne faut. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith sahih, lorsque deux personnes se disputent, s'ils doivent à tout prix se tourner le dos alors que ça dure 3 jours. Bon, dans le couple, ça peut durer encore plus longtemps si les 3 jours de mise en quarantaine ou de silence mutuel ne sont pas suffisants pour remettre les pendules à l'heure. Ça peut durer 15 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après un conflit avec ses épouses pendant 29 jours, il ne leur a pas parlé, ils n'ont pas parlé, se sont séparés pour se retrouver de plus belle. Avec quoi? Avec de nouveaux engagements qui vont durer jusque l'éternité. Mais se disputer avec sa femme, ne pas lui adresser la parole, se disputer avec son mari, ne pas lui adresser la parole pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, on ne peut plus parler de couple. Je veux dire, ça peut durer quelques semaines, mais pas des années. Parce que, c'est invivable, c'est insupportable, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Dans un couple, il doit y avoir un minimum de quoi? D'échange, de symbiose, de cohésion, d'entente. Deuxièmement, je ne vois pas comment on fait pour s'occuper des enfants et gérer la famille si on ne discute pas. Donc je pense que là, il y a quelque chose de grave et d'important. Il faut vite réagir. Alors, il y en a un des deux qui doit baisser la garde. Je pense qu'on est tombé sur deux personnes qui sont assez têtues. Et chacun campe sur sa position en disant, et en montrant du doigt l'autre, en disant c'est ta faute, tu dois. Si vous restez comme ça, vous n'allez pas avancer. Donc il faut savoir faire des concessions, faire une marche arrière, avaler sa salive et s'asseoir un peu sur sa fierté, son honneur, pour l'intérêt du couple, pour la pérennité du couple et pour l'intérêt des enfants.
Je pense que le moment, quand on est dans le moment béni, je pense que
c'est le moment pour la réconciliation. Et je pense qu'une femme qui cherche à aller faire taraweh alors qu'elle est en conflit avec son mari, je pense qu'il y a plus urgent que le taraweh, c'est de résoudre le conflit avec son mari. C'est-à-dire que ça sera une action qui sera beaucoup plus bénite, beaucoup plus... beaucoup plus méritoire que de faire taraweh.
Tu l'as si bien dit, Tala Hassan, en disant que peut-être, je ne vais pas jouer le côté psychologue loin de là, mais le fait de s'extérioriser, de sortir justement de ce conflit, d'essayer de se retrouver, comme tu l'as si bien dit, parce que la mosquée, effectivement, elle offre cette chance justement de se retrouver entre femmes, de discuter, peut-être d'échanges, effectivement, peut-être qu'elle est qui la conseille aussi.
Tout à fait.
Ça, donc peut-être aussi pour elle, c'est aussi s'extérioriser, sortir de son problème qu'elle vit chez elle, essayer de trouver peut-être une solution extérieure.
Tout à fait.
Et en espérant que si la sœur nous écoute aujourd'hui, qu'elle trouve justement cette réponse qui, ma foi, est peut-être la meilleure dans ce mois béni, c'est d'essayer d'avoir une communication réelle avec son mari. Carte sur table, comme on dit, hein, c'est pas faire une belote ou un rami, mais poser bien les cartes sur la table et dire ce qui va pas dans le couple. Effectivement, pour essayer d'y remédier. Et après, Inch'Allah, qu'ils aillent ensemble, taraouih, main dans la main, et Inch'Allah, que ce soit une bénédiction pour tout le monde.
Inch'Allah, c'est une bonne occasion, effectivement.
Il y avait une autre question, c'est par rapport à la personne qui est malade et qui doit faire des piqûres. Est-ce qu'elle peut jeûner? Est-ce que son jeûne est valable?
Donc ce sont des questions qui reviennent chaque année. Oui. J'espère que la personne qui la pose n'a pas la réponse, ou si elle a la réponse, elle la pose pour que les autres aient la réponse. Mais parfois on se pose des questions en disant, quand va-t-elle arrêter ces questions-là? C'est pas grave, vous êtes les bienvenus sur Pastel FM, Radio La Prophétie, mais s'il vous plaît, essayez de transmettre cette manière d'aborder le ramadan. Ce qui est interdit, qui annule le ramadan, sont les choses suivantes. Donc ça veut dire, à part ça, il n'y a rien d'autre qui annule le ramadan de manière unanime. Ok, bon, c'est boire, ou manger, ou fumer, volontairement. Ok. Secondo, avoir des rapports sexuels. D'accord. Volontairement.
Hein. Volontairement, c'est possible.
Oui, si quelqu'un a été violé, son jeûne est valable.
D'accord. Merci, Hassan.
Troisièmement, c'est le fait de renier sa religion. Le fait de quitter l'islam, ça annule le jeûne. Si vous respectez ces règles, tout le reste n'annule pas. Bien qu'il y ait de la divergence chez les savants à propos de certains points. Mais, pour rester large et souple, tout le reste n'annule pas. Donc, vous faites vos piqûres, ça n'annule pas le ramadan, vous brossez les dents, ça n'annule pas le ramadan, vous mettez du gel sur vos cheveux, ça n'annule pas le ramadan, vous parfumez, ça n'annule pas le ramadan, vous mettez du noir aux yeux, ça n'annule pas le ramadan, etc.
Le siwak aussi précise que...
Oui, le siwak, à condition de ne pas l'avaler, le siwak. D'accord. Et encore, ne pas l'avaler volontairement. Si vous mangez votre siwak de manière involontaire, votre jeûne est valable. D'accord. Donc, à part, je veux dire, ces choses que je vous ai citées, Inch'Allah, rien n'annule le jeûne. Donc ça, c'était par rapport à cette question de la piqûre. Alors, je ne parle pas de celui qui est à l'hôpital et qui est sous perfusion. D'ailleurs, celui-là, il ne doit même pas jeûner puisqu'il est malade. Quelqu'un qui est sous perfusion, je ne vois pas ce qu'il fait à jeûner. Je vois pas pourquoi il devrait jeûner.
Si tu pouvais faire un rappel vraiment général justement sur... là, je parle parce que ma maman, effectivement, sur les neuf garçons, voir l'imam pour poser la question par rapport aux jeunes quand tu es malade. Donc, malgré les réponses, qu'est-ce qu'on peut leur donner? C'est que nos personnes les plus vieilles possibles, je parle vraiment ceux qui se dépassent les 70 ans, 75 ans, effectivement, ils ont du mal à dire, même s'ils ont des piqûres d'insuline, et ainsi de suite, et leur ramadan n'est pas une obligation pour elles, ils ont du mal à comprendre ça. N'importe qui, tu parles avec une veille qui est même à l'hôpital, elle va dire je prends mes médicaments, mais je ne mange pas.
Oui, tout à fait.
Se rappelle que c'est permis.
Non, c'est pas seulement que c'est permis, ça devient même presque obligatoire pour certaines personnes, parce que le danger, c'est quoi? C'est que cette religion devienne un réflexe purement sociologique. On ne doit pas adorer Dieu en fonction des coutumes, des habitudes, des réflexes, de la pression sociale, des goûts, des envies et des couleurs. On doit adorer Dieu en connaissance de cause. Et Dieu qui nous dit de jeûner, c'est lui-même qui nous dit de ne pas jeûner, dans certains cas de figure.
Monsieur.
Donc, pourquoi se sentir mal à l'aise lorsqu'on ne jeûne pas, alors que c'est Dieu qui m'a donné l'autorisation? Et il y a un hadith qui va dans ce sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage avec ses compagnons. Il voit un attroupement. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un homme qui est allongé par terre, qui est dans les vapes. On lui fait du vent, de l'air. On essaie de l'aider à reprendre conscience. Qu'est-ce qui l'a poussé à se retrouver dans cet état? Ils ont dit, prophète, il jeûnait. Donc, en voyage, il fait chaud, il jeûne, il tombe évanoui, il est fatigué, il a faim, il a soif, il a tout ce que vous voulez. Dans un autre hadith, après je vous dirai le commentaire, ils étaient plusieurs à faire cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commenter cette situation. Il dira Oulaika humul usat. Ce sont les désobéissants. Et le usat, pluriel de asé. Ils ont désobéi à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu qui nous impose le jeûne nous dit, quand vous êtes en voyage, vous avez une dérogation, qui est de ne pas jeûner. Maintenant, vous êtes en voyage, les conditions sont hyper difficiles, vous mettez en péril votre santé, et malgré ça, vous jeûnez. Qu'est-ce que vous recherchez? Vous cherchez la mort, le suicide. Donc, ces gens-là, on peut les considérer comme des gens qui désobéissent à Dieu. Je vous raconte une anecdote, j'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un, donc il me pose sa problématique. Donc c'est quelqu'un c'est un soldat, il est à l'armée. En ce moment, il est à l'extérieur, donc ils sont dans un camp, ils font des exercices physiques, etc. Il me dit, j'ai un gros problème avec mes prières. Hein, j'ai du mal à faire mes prières, d'ailleurs ça fait 3 jours que j'ai pas fait la prière. Ok, donc je ne sais pas comment faire, j'y arrive pas, je peux pas faire la prière devant les autres parce que j'ai peur des réactions. Bref, je lui donne une solution pour qu'il fasse ses prières. Ok, donc je vais de dérogation en dérogation jusqu'à ce qu'il prie comme il peut. Ce qui compte, c'est qu'il accomplisse ses prières. Après, je lui pose une question, je lui dis, et le jeûne, ça doit être aussi difficile pour toi? Il dit, oh ouais, c'est galère, c'est difficile, mais je le fais. Je lui dis, Smahli, pourquoi tu jeûnes? Il me dit, parce que le jeûne, il faut le faire. Je lui dis, non mon frère. La prière qu'il fallait absolument faire, il n'y a aucun savant qui te dira qu'il ne faut pas la faire. Tu l'as laissé tomber pendant 3 jours pour des difficultés, mais comme tu n'avais pas de science, bon, je t'excuse entre guillemets, mais je t'ai donné la solution, maintenant tu vas la faire. Mais le jeûne, mais c'est beaucoup plus facile. Tu te prends la tête pour rien du tout. Un, tu es en voyage. De deux, tu es dans des conditions difficiles. Vous imaginez, ils font de l'entraînement physique toute la journée, ils font 40 km avec un sac à dos. Je dis, mais c'est du suicide, mais t'es malade toi. Il dit, non, je vais quand même jeûner, même si c'est difficile, j'aurai plus de récompenses. Et là je me suis énervé en lui disant, écoute, de deux choses l'une ou l'autre, soit c'est toi qui as la science religieuse, islamique, à ce moment là je vois pas pourquoi tu m'appelles, soit tu l'as pas, et à ce moment là tu vas m'écouter et c'est moi qui vais te dire ce que tu vas faire. Sinon, s'il te plaît, tu ne me fais plus perdre ma salive à me poser des questions, parce que quand je te réponds, tu me dis non, ça veut dire que tu me prends, excusez-moi l'expression, pour un con. Donc j'ai essayé pendant un quart d'heure à le convaincre du bien fondé de ne pas jeûner pour son cas, et il ne voulait pas. Et ça s'est terminé, je vais quand même jeûner. Regardez, subhanallah, comment les gens... Allez, la prière qui est le pilier, la prière... Celui qui ne la fait pas, le hadith, la différence entre eux et nous, entre les croyants et les non-croyants, entre les hypocrites et les croyants, c'est la prière. Celui qui la délaisse, faqad kafar bi hadith, il la laisse tomber. Et le jeûne, non. Pourquoi? Parce que le jeûne, parfois, il est accompli par beaucoup de monde, non pas par l'intention de plaire à Dieu, mais uniquement par réflexe sociologique, communautaire, une coutume. Si bien que, quand tu leur donnes la solution, les gens n'en veulent pas. Quand tu leur donnes la dérogation, les gens n'en veulent pas. Pas parce que ce que tu leur dis est faux. Ils te disent oui, c'est vrai, mais non. Donc ça veut dire les gens doivent obéir à Dieu quand ça leur plaît et quand ça leur déplaît. Quand ça les arrange et quand ça les dérange. Vous comprenez?
C'est ce que j'avais dit dans un des journaux du Nord, là. Et ça m'a étonné parce qu'effectivement, il disait que le ramadan, c'est, pour certains, c'est une identification à une communauté.
Oui.
Et pour moi, ça me paraissait drôle parce que c'est une obligation divine. Et pour revenir sur le point que tu as cité, Hassan, effectivement, quand l'imam chez nous disait que toute chose a une dérogation, hormis salat. Il dit الذين يصلون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. C'est même avec tes yeux allongés, c'est-à-dire qu'on n'a aucun, même quand tu es malade, tu dois prier. Par contre, quand tu es malade, tu ne jeûnes pas. Ça veut dire que chaque chose est une dérogation en misalat. Et là, c'est vrai que le côté, et tu le dis si bien, c'est le côté culturel des mœurs, où j'ai envie de maigrir, ou parce que dans ma famille, depuis la nuit des temps, ben, je fais le ramadan, je ne sais même pas ce que c'est, je ne sais même pas quel est l'objectif. Et là, l'intérêt effectivement de cette émission-là, qui est très bien sur la nuit, justement le ramadan, le mois béni du ramadan, et là tu l'avais signé en premier point, c'est l'arrestation de Coran. Comme on dit, si on veut parler à Allah, on se prosterne, et si on veut, la réponse d'Allah,
on fait quoi?
Donc c'est pour ça l'importance de dire à tous les frères et sœurs qui nous écoutent, c'est que les réponses se trouvent dans le Coran. Attention, je ne dis pas qu'on est des érudits, qu'on les lit et on comprend tout. Après, on se rapproche, bien sûr, des personnes qui ont la connaissance.
Tout à fait.
Barakallahu fikoum, on va se faire une petite pause. On rappelle que le vendredi, l'émission, c'est jusque 23h. Donc vous restez à l'antenne, c'est les 03 20 73 59 00. Vous pouvez poser vos questions en direct. Petite pause, allez, c'est vrai. Donc, de retour sur les ondes de Pastel FM, vous êtes à l'émission La Prophétie, avec une spéciale Ramadan, donc trois émissions effectivement semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Vous avez entendu un petit jingle juste avant sur l'opération colis pour les détenus des prisons. Donc l'année passée, c'était 1500 colis qui ont été collectés et remis aux détenus qui se trouvent dans les différentes prisons du Nord-Pas-de-Calais et de Belgique. Cette année, ça démarre un peu moins rapidement. Donc, faire peut-être un petit rappel, en tout cas on le fait, qu'effectivement, les personnes détenues qui jeûnent et qui n'ont pas ce qu'il faut, le strict nécessaire, alors que nous, alhamdoulilah, pour la majorité, à l'heure du Maghreb, du Ftor, on trouve ce qu'on a trouvé, même beaucoup plus. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Hassan.
J'en pense déjà que c'est une action noble. Et les félicitations pour ceux qui l'ont démarré, en particulier la famille Alaoui, puisqu'on peut parler de famille Alaoui, puisque le père, la mère et les enfants sont tous engagés dans cette action humanitaire. C'est à leur honneur, mais ils ont besoin d'aide. Ils ne peuvent pas tout seuls assumer cette lourde tâche. Mais 500 colis, ce n'est pas une masse à faire. C'est réalisable si tout le monde met du sien. Et c'est tout à fait possible. La preuve, c'est que si ça marchait l'année dernière, ça peut marcher doublement cette année. Il faudrait juste que nos frères et nos sœurs commerçants qui ont plus de moyens et qui ont la capacité de donner et d'enrichir quand ils donnent. Parce que si la majorité des gens ne donnent qu'un colis, un commerçant peut donner 10, 30, 50 colis parce qu'Allah Ibarak, Dieu lui a donné les moyens. Mais juste un petit rappel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith véridique, authentique, il dit de nourrir l'affamé, nourrir celui qui a faim. Et ensuite il dit Wafukku al-ani. Wafukku al-ani, libérer les prisonniers. C'est-à-dire, le musulman doit penser à ceux qui sont en prison. Pourquoi? Pour alléger justement leur épreuve, leur souffrance. S'il a les moyens de les faire sortir de prison, moyennant à l'époque une rançon, puisque des gens étaient en prison souvent par l'ennemi, qu'il le fasse. Sinon, il nous dit dans un autre hadith de nourrir le prisonnier. Après la bataille de Badr, les 70 prisonniers non musulmans ont été répartis dans les familles, puisqu'il n'y avait pas de prison. Et chaque musulman qui avait un prisonnier chez soi était tenu de le prendre en charge, hein, le logis, le repas, etc., etc. Et Abu Basir, qui est le frère de Mus'ab, Mus'ab ibn Umair s'est converti à l'islam assez tôt, son frère non, Donc il est tombé prisonnier à la bataille de Badr. Et qu'est-ce qui l'a poussé à se convertir, Abou Aziz? C'est le comportement qu'avait la famille musulmane chez qui il était prisonnier. Abou Aziz raconte après sa conversion que ces gens-là, quand le repas était prêt, ils lui donnaient d'abord à manger, ils choisissaient ce qu'ils voulaient, ils mangeaient à sa faim, et la famille passait après pour manger le reste. Et il a été choqué par ce comportement. Il a dit, pourquoi vous me donnez à manger? Je suis votre ennemi. Je suis venu vous combattre. Je suis tombé prisonnier. J'aurais peut-être pu assassiner quelqu'un parmi vous. Et vous me nourrissez, vous me préférez à quoi? À vos femmes et à vos enfants? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse à autant de générosité? Quelle était la réponse du sahabi, du responsable de famille? Il a dit, le prophète nous a recommandé d'être quoi? D'être bon avec nos prisonniers. Regardez la simplicité, l'obéissance. Il comprenait les messages, il les recevait 10 sur 10 et il les mettait en pratique sans philosopher, sans discuter. Le prophète, il nous a dit de faire ça, on le fait. Ils ne sont pas dit, ah ben non, prophète, t'exagères quand même. Je ne vais pas nourrir quelqu'un qui nous a combattus, qui peut-être, une fois que je l'aurai bien nourri, il va continuer à me combattre. Non, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui avait un grand cœur, c'était un humaniste. Ok, c'est pas quelqu'un qui cherchait à faire du mal aux gens, au contraire, cherchait à les sauver. Et regardez ce que dit justement le verset du Coran par rapport à cette anecdote. Dans la sourate Al-Insan, l'homme, Dieu dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِمْ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Et ils nourrissent qui ça? Le nécessiteux, l'orphelin et le prisonnier. Et à cette époque, lors de la révélation du Coran, il n'y a pas de prisonniers musulmans. Ce sont des prisonniers non musulmans. Mais le verset ne s'arrête pas là, il dit c'est-à-dire, ils donnaient la nourriture bien qu'ils aimaient cette nourriture. C'est-à-dire, eux-mêmes étaient dans le besoin et ils patientaient, ils donnaient cette nourriture malgré l'amour qu'ils avaient envers cette nourriture, c'est-à-dire la nécessité, le besoin. Ils se privaient pour un prisonnier ennemi qui les a combattus la veille. C'est extraordinaire. Hein, ça n'a pas d'équivalent.
Ça sort de tout entendement en réalité.
Ouais.
Je voulais simplement, par rapport au colis, et peut-être pour appuyer un peu, simplement une chose, Hassan, c'est que les gens doivent prendre, conscience qu'effectivement, c'est pas parce qu'on a fait des bêtises, et c'est pas parce qu'on est en prison qu'on ne fait ni la prière et on ne fait pas le jeûne. Beaucoup de personnes qui, j'appelle ça moi la prison un sabab, un intermédiaire qui a fait que, effectivement, beaucoup de jeunes qui ont fait un passage, il y en a qui l'ont inscrit sur leur CV, effectivement, en disant, moi j'ai 10 ans de prison, là tu en as 5, c'est un peu un petit concours, disons, de quartier. Ceci dit, on oublie de dire que beaucoup ont été très repentants. Ça me rappelle un peu, je ne vais pas dire à Hermégal, la personne qui va au Hajj qui revient repentante. Mm-hmm. Eux, quand il y a certains qui ont fait un stage en prison, ils sont revenus, ils ont appris.
Ça les a fait réfléchir.
Tout à fait. Et il y a des jeûneurs. Il existe des jeûneurs dans les prisons.
Beaucoup.
Donc la sœur qui s'occupe de ça et les frères qui s'occupent de ça, c'est parce qu'il y a un besoin. Ça n'a pas été innové. Donc les gens prennent conscience qu'effectivement, derrière les prisons, il y a des jeûneurs.
On a une auditrice au téléphone. On va la prendre. Oui, allô.
Salam alaikum.
Wa
alaikum
salam.
Je voulais, en fait, j'ai une question à poser sur la zakat al-fitr. En fait, il y a beaucoup de gens, en fait, qui sortent la zakat al-fitr par de l'argent. Et en fait, là, par rapport à Ibn Taymiyyah et Ibn Baz, ils ont dit, en fait, que la zakat al-fitr ne doit être versée que si c'est en nourriture. Donc, ils sortent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné pour un zakat al-fitr de donner un sac de dattes ou un sac d'orge. Et ça a été dit aussi par Abu Sa'd al-Khudri radhiyallahu anhu.
Oui.
Et ce qui m'a un petit peu choqué, c'est surtout quand ils disent que celui qui est en contradiction avec l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette façon en fait sera rejetée et ne sera pas acceptée. C'est-à-dire en fait qu'il sera renvoyé à son auteur.
Très bien. Donc, votre question est claire et précise. Alors, vous avez cité l'avis de deux savants.
Est-ce que vous pouvez couper la radio? Parce qu'a priori, il y a un retour, ça veut dire le son est mauvais.
Donc, vous avez cité la vie de deux savants éminents, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Utheymin, rahimahumullah, qui sont décédés, et personne ne contestera leur degré de science, ni leur piété, ni leur dévouement pour la communauté musulmane. Donc, sur ce, on ne discute pas. Maintenant, il faudrait que vous ayez, inshallah, une ouverture d'esprit et une culture musulmane un peu plus éclectique, et vous mettre à la page et lire d'autres avis d'autres savants qui ne rejoignent pas toujours les avis des deux savants que vous avez cités. Ainsi, sur cette question de la zakat al-fitr, doit-elle être versée en nature ou en monnaie sonnante et trébuchante, il y a une divergence. Parmi nos savants classiques et nos savants contemporains, cet ikhtilaf ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Ici, certains aujourd'hui insistent sur le fait qu'il faille la verser en nature, et que si on ne la verse pas en nature, elle n'est pas acceptée. Je pense qu'il y a un peu d'extrémisme dans cet avis, parce qu'il est en contradiction avec les avis de certains de nos savants pieux prédécesseurs, les salafs salih, tels les grands califes Omar ibn Abdelaziz ou Mu'ad ibn Jabal, c'est-à-dire des compagnons, des tabi'in et des tabi'i tabi'in, qui ont donné des fatwas pour que la zakat al-fitr soit versée non pas en nature mais en monnaie, parce que c'était plus utile, plus intéressant pour le pauvre.
Mais pourquoi ce hadith alors?
Ben, vous savez, ce hadith, personne ne va le contester. Ouais. Mais c'est toute la problématique du texte et de la lettre. Est-ce que tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent être pris à la lettre ou doivent être contextualisés? C'est-à-dire, le prophète a dit qu'il fallait donner en date ou en orge, parce que justement, à son époque, c'était les denrées alimentaires qui étaient disponibles et accessible par la majorité des gens. Et si, à son époque, il y avait autre chose, ben, il aurait dit que cette zakat soit versée autrement. Alors, vous me dites, oui, mais c'est une hypothèse. Si, je vous dis, non, on parle comme ça parce que si vous ne voyez pas et vous n'abordez pas cette question de la zakat al-fitr de cette manière, vous allez tomber dans une contradiction lorsque je vais vous citer d'autres hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que aujourd'hui, on ne peut pas prendre à la lettre. On est obligé de quoi? On est obligé de les interpréter en tenant compte du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'exprimait en tant que messager envoyé de Dieu qui recevait la révélation. Et cette révélation avait deux volets. Un volet où on doit obéir sans discuter. Ça s'appelle al-ibadat, les actes rituels d'adoration, tels la salat ou le siyam, et un volet qui s'appelle al-mu'amalat, c'est-à-dire les actions de ce bas monde qui, elles, ces actions peuvent être comprises, discutées, pensées, révisées, adaptées en fonction des circonstances, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque ses compagnons eux-mêmes n'hésitaient pas à quoi? Parfois à lui poser des questions sur ces injonctions. Sont-elles des obligations à ne pas discuter ou des avis qui peuvent être discutés? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que pendant le pèlerinage, lorsque le pèlerin est en état d'ihram, de sacralité, il ne doit pas faire telle et telle et telle chose, et entre autres couper des arbres ou couper de l'herbe, l'Abbas, son oncle, dit: prophète, ok, mais autorise-nous quand même de couper une certaine herbe dont nous avons besoin pour nourrir nos animaux. Et le prophète lui dit, ok, ça vous pouvez le faire. Et ainsi de suite. Donc c'est une question de usul al-fiqh, de jurisprudence, de fondement, qui nécessite une émission, mais en tout cas pour vous réconforter. Sachez que les savants musulmans, il y en a des centaines de milliers, walillah alhamd.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu un savant qui a dit qu'on pouvait sortir de l'argent à la place?
La majorité des savants disent cela.
Parce que là, c'est quand même, ils ont cité Cheikh Ibn Baz, qui est quand même un bon savant, Al-Taymin, Daima, ou... c'est ça qui fait un petit peu...
Vous savez, ces savants que vous citez, que Dieu les récompense pour tout ce qu'ils ont fait, ne sont connus en fait que par vous et quelques personnes. La majorité des musulmans sur Terre ne les connaissent même pas.
Même l'imam Malik aussi.
Oui. Oui, mais c'est pas parce que je veux dire, cher Ben Baz ou l'imam Malik ont dit cela, que tous les autres disent comme eux. Chaque savant a son identité et il est un mujtahid, quelqu'un qui réfléchit sans suivre un autre savant et il donne son opinion. Moi, je me souviens quand j'étais allé dans l'île de la Réunion, là-bas, vous avez des savants qui sont tous originaires de l'Inde, mais quand je leur citais des grands savants comme ceux que vous avez cités, ils ne les ont jamais rencontrés, ils n'ont jamais entendu parler d'eux. Ils ont leurs références, ils ont leur école, ils ont leur avis qui parfois correspondent aux avis d'Ibn Baz et parfois ne correspondent pas. Pourquoi croire et penser mettre en avant que en islam il y a deux savants, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Taymin, rahimahumullah, et ce sont leurs avis qui doivent être écoutés? Non. Non. Donc, vous savez, la divergence, la pluralité des avis en islam ne date pas d'aujourd'hui. Elle date du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne va pas aujourd'hui, parce que on est au 21e siècle, prétendre que on va réinventer l'eau chaude ou la roue. C'est pas vrai. Cette question de zakat au fait de tel être versé en nature ou en monnaie remonte au premier temps de l'islam et les premiers savants étaient divergents. Vous aviez deux écoles, deux opinions, ceux qui disent on la verse en nature, ceux qui disent on la verse en monnaie. Et les deux opinions se valent parce que les deux opinions sont le fruit de nos savants qui n'inventent pas mais qui se basent sur les textes pour apporter des réponses à nos questions. Et dès qu'il y a l'intervention de l'intelligence humaine, sachez qu'il y a généralement, dans la plupart des cas, divergence. Parce que l'homme n'est pas parfait. Il peut se tromper, il peut être plus proche de la vérité, moins proche. Et nous, qui ne sommes pas des savants, nous sommes tenus de quoi ? De poser des questions à nos savants et de les suivre, de les écouter. Et celui qui pense et qui se sent rassuré par l'avis des savants qui disent qu'il faut donner en nature, qu'il donne sa zakat en nature. Et celui qui est rassuré et qui pense que la donner en monnaie, c'est meilleur, qu'il la donne, et les deux zakat versées de cette manière sont agréées par Dieu, parce que les deux personnes qui les ont versées non pas par passion, mais en obéissant à Dieu, c'est-à-dire en questionnant ceux qui ont la science. Maintenant, dans l'absolu, qui a raison, qui a tort? C'est Dieu qui tranchera.
C'est ça qui me fait peur, en fait.
Non, n'ayez surtout pas tort.
En argent, mais quand j'ai entendu ça, là, j'ai
un doute. N'ayez pas peur, parce que celui qui suit son savant est guidé. Vous entendez? Il est guidé, hein.
Oui.
Et même si le savant se trompe, vous êtes sur le droit chemin. Combien?
La personne qui me dit ça me dit, c'est elle qui l'a dit, donc voilà, il faut.
Et alors, si elle l'a dit.
Maintenant, si elle me dit, la personne me dit, où as-tu entendu qu'on pouvait donner de l'argent à la place, qu'est-ce que je vais lui répondre?
Vous savez ce que vous lui dites? Vous lui dites
de citer la personne, de citer un chir, de citer un savant.
Non, vous n'avancerez pas si vous lui répondez. Vous savez pourquoi? Parce que si vous lui dites, tel savant l'a dit, il vous dira, ce savant, il n'est pas bon, il est nul, ce savant, il n'est pas reconnu, ce savant il est égaré. Ben, vous savez ce que vous répondez? Vous lui répondez comme ça. Tu fais ce que tu veux, tu suis le savant en qui tu as confiance. Et moi, je fais ce que je veux, je suis le savant en qui j'ai confiance. Voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre. Sinon, vous n'avez pas fini. Parce que, vous n'êtes pas en état, vous n'êtes pas en posture de pouvoir dialoguer, discuter au niveau religieux, parce que ce n'est pas votre spécificité, ce n'est pas votre spécialité. Vous avez compris? Vous n'avez pas les outils ni les arguments. Mais le pire, c'est que lui non plus, il ne les a pas. Mais lui, il vient et discute avec vous dans une posture où il prétend quoi maîtriser, connaître, parce qu'il a dans son disque dur quelques avis de quelques savants. Mais s'il a affaire un jour à quelqu'un qui a la connaissance, il va tout de suite démonter sa posture, sa position et son avis. Donc ne polémiquez pas. Ce qui compte, Inch'Allah, c'est que les pauvres, le jour de l'Aïd, aient le sourire. Maintenant, si vous permettez, je vais vous donner mon avis. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, vous en faites ce que vous voulez. Mais sachez que les pauvres, le jour de l'Aïd, ils n'ont pas besoin de vos dattes, ma sœur. Encore moins de votre farine que vous achetez à Lidl. D'accord? Vous savez de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de vos 50 euros. Pourquoi? Parce qu'avec les 50 euros, ils vont acheter avec la nourriture qu'ils veulent, le jour de l'Aïd, pour faire la fête comme ils veulent.
Et peut-être, qui vous dit que les pauvres, le jour de l'Aïd, ils ont besoin de nourriture? Peut-être qu'ils ont besoin juste de vêtements. Ou peut-être tout simplement, c'est de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de 50 euros pour payer une dette de loyer qu'ils ont, parce que le jour de l'Aïd, ils ne peuvent pas avoir le sourire, parce qu'ils vont croiser leur propriétaire, ou ils vont croiser leur voisin à qui ils ont emprunté 50 euros la veille pour manger le vendredi soir, et ils doivent rendre les 50 euros pour faire l'Aïd, parce que, etc., etc.
Non, mais est-ce que vous avez au moins un nom de... Je
ne
sais pas, parce que...
Voilà. Je vais vous donner 50 noms, et ça ne servira à rien du tout, parce que c'est une question de confiance. Oui. Alors, je ne vous parle pas à vous indirectement, hein. Mm-hmm. Mais qui êtes-vous pour, si je vous donne des noms, juger que tel savant...
La source, ben, de,
qui êtes-vous, la qui êtes-vous, d'accord, pour... pouvoir juger de cette source. Je vais vous inventer une source maintenant. Je vais vous inventer des noms de savants et je vais vous mettre dans la difficulté puisque vous allez me dire « Ah, je connais pas
oui. ».
Ça confirme très bien ce que je pensais de vous, c'est-à-dire vous n'êtes pas spécialiste, donc restez à votre place, questionnez ceux qui savent. Mm-hmm. Et si vous avez confiance à la personne que vous questionnez, vous suivez son enseignement. Vous n'avez pas confiance, vous la questionnez pas puisque c'est une perte de temps pour vous et pour lui. Vous avez compris ce que je veux dire?
Oui, oui,
je ne vous parle pas à vous directement, mais bon, je parle à tout le monde. Hein. Donc, vous n'êtes pas en posture, ni capable de comprendre ni la source, ni le savant que je vais vous citer, parce que vous n'êtes pas versé dans les sciences religieuses. C'est comme si vous appelez votre médecin, vous êtes malade, il vous dit vous avez telle maladie, et vous discutez. Mais qui vous a dit que j'ai telle maladie, monsieur le médecin? Et qui vous dit que ce médicament que vous me donnez, il est bon? Vous savez ce que va faire votre médecin? Il va regarder avec des grands yeux, il va dire, mais vous me prenez pour un imbécile? Pourquoi vous m'avez téléphoné? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, celui qui me pose une question et qui me dit, quelle est ta source? J'envoie balader gentiment en lui disant, va voir ailleurs, j'ai pas de temps à perdre. Soit tu es savant et tu comprends ce que ça veut dire la source, tu comprends ce que ça veut dire... Le Coran, la Sunna, l'Ijma, l'Qiyas, l'Urf, l'Masalih, l'Mursala, toutes ces termes techniques, ces sciences islamiques. Et à ce moment-là, il n'a pas à me poser de questions puisqu'il est savant. Il est versé dans les sciences religieuses. Sinon, que les gens restent à leur place et demandent à ceux qui savent quand ils ont confiance en ces personnes. D'accord.
On va en rester là parce qu'il y a d'autres questions. On vous remercie beaucoup pour vos questions. Je vous en
prie, avec ma soeur. Hein. Bon
ramadan. On va prendre un autre intervenant, Inch'Allah. Oui, allô? Allô?
Allô, oui, bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Salam alaikum.
Bonsoir.
Je vous remercie énormément pour les émissions que vous nous faites. Surtout qu'elles sont traduites en français, donc c'est plus simple pour nous. Voilà, moi je suis... Enfin, je suis algérienne, mais je prie depuis quelques temps. Donc je me pose énormément de questions. Donc voilà, ma question est un petit peu appropriée à la précédente. Donc je profite pour vous appeler maintenant tout de suite. J'aimerais savoir à quel moment on dit d'une personne qu'elle est pauvre, parce que voilà, moi mes proches, l'usage, ils me disent Zakat al-Fitr, il faut que tu la donnes à tes proches d'abord. Donc moi mes proches d'abord, je veux rien dire, alhamdoulilah, on est dans un pays où on a la chance d'avoir le RMI. Donc moi-même je vis avec le RMI, j'ai des enfants, je sors Zakat al-Fitr. Donc dans ce cas-là, si on me dit que le pauvre c'est celui qui a le RMI, dans ce cas-là moi aussi on pourrait me donner Zakat al-Fitr. Mais bon, je la prends pas parce que je trouve que alhamdoulilah, on vit dans un pays où on a quand même ce qu'il faut. Donc si nos proches sont comme nous au RMI. Bon, et on me dit de tout de même de donner à un de mes proches.
Très bonne question.
Mes proches, si je vois, moi, j'ai une nièce particulièrement, si je peux lui donner, elle a une fille, elle vit avec le RMI, moi, on est 4 personnes, on a le RMI, si je fais 800 divisé par 4 ou 400 divisé par 2, ça revient exactement au même. On a la même somme, je considère, par personne.
Oui, j'ai compris votre question.
Donc, qui est le pauvre et qui ne l'est pas?
Très bien.
Et j'aimerais savoir à quel moment on est pauvre, quoi.
Très bien.
Voilà.
Alors, je vous félicite hein, pour votre prière que vous accomplissez depuis peu. C'est très bien.
Depuis peu, quand même. Ça fait un long moment, mais je
bon,
c'est
D'accord, peu importe en tout cas.
Maintenant, à partir du moment où l'on prie, je crois qu'on se pose énormément de questions, on se remet beaucoup en question.
C'est très bien.
Et alhamdoulilah, Rabbi, il y a des gars, l'aïbad des canorés, ils sont bons, mais ils sont laids. Moi, j'étais comme ça.
Alhamdoulilah. Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Non, mais ça fait beaucoup de bien, énormément de bien. Alhamdoulilah. Je conseille à tous les jeunes, enfin j'ai 40 ans, mais je conseille à tous les jeunes, etc., qui font seulement le jeûne parce que les parents l'ont fait, etc., au moment où ils prient, ils verront que même dans la douleur, ça va beaucoup mieux, la prière.
Merci pour le conseil. Oui. J'espère qu'il n'est pas tombé dans l'oreille des sourds.
J'espère, parce que j'étais sourde avant aussi, moi.
Vous parlez bien, que Dieu vous protège. Donc vos anciens que vous avez écoutés, ils n'ont pas tout à fait tort en vous disant qu'il faut commencer par ses proches.
Oui.
La meilleure des aumônes, c'est celle qui est faite à ses proches.
Oui.
D'accord ? Donc ça, c'est une vérité indiscutable.
Oui.
Deuxième question, qui est très pertinente, c'est où commence la pauvreté ? Elle s'arrête où ? Alors, c'est très relatif, en fonction des sociétés, bien entendu. Le pauvre ici en France, c'est un riche par rapport à tel pays, à telle société. Donc, on est d'accord que c'est très relatif.
Voilà.
Alors, en ce qui nous concerne en France, d'après les critères de pauvreté en France, celui qui est en deçà du RMI, c'est-à-dire celui qui ne touche même pas le RMI, qui a une rente, un salaire en dessous du RMI, c'est un pauvre.
Oui.
D'accord ? Voire même, j'ai entendu un jour quelqu'un de versé dans les sens religieuses qui me disait, non, le pauvre en France, c'est celui qui touche moins que le SMIC. D'accord ? Car le SMIC, c'est le salaire minimum de base.
Donc nous sommes nous-mêmes des pauvres.
Donc celui qui est en dessous du SMIC est un pauvre en France.
Oui.
D'accord ? Donc, par rapport à... Alors, si on se base sur ces deux avis, vous êtes effectivement, islamiquement parlant, dans la classe des pauvres et vous avez le droit de recevoir la zakat.
Bon.
Ok ? Alors, ce qui n'empêche que vous devez la donner, la zakat.
Oui.
C'est-à-dire, même le pauvre est tenu de verser la zakat al-fitr. Parce que la zakat al-fitr, c'est quoi son objectif ? C'est avant tout de purifier notre jeûne.
D'accord.
Qui n'est pas parfait.
D'accord ?
C'est de le purifier. Et le pauvre donne ce qu'il a, ce qu'il peut, pour recevoir 10 fois plus que ce qu'il a donné, Inch'Allah.
D'accord.
D'accord ? Bon, maintenant, on va relativiser quand même cet avis en disant que, effectivement, vous avez raison, alhamdoulilah, en France, on n'a pas à se plaindre, on vit bien, il y a des gens qui se battent et qui se sont battus, qui continuent à se battre pour qu'on ait quand même, alhamdoulilah, le minimum pour être bien dans sa peau.
Oui.
Alors, si on compare notre situation à la situation d'autres personnes plus loin que ce qu'on a dans notre ville, dans notre quartier, ben, croyez-moi qu'on est très riche et que ces gens-là sont dans l'urgence.
Bah oui, voilà,
donc c'est plus une question de pauvreté, c'est une question d'urgence dans la pauvreté.
Voilà.
Donc si nous sommes pauvres, parce qu'on est en dessous du SMIC,
oui,
on touche le RMI,
oui,
sachez que d'autres ne touchent ni SMIC ni RMI,
ni alloc.
Et à ce moment-là,
rien.
Et à ce moment-là, ces gens-là sont pauvres.
Oui.
Et sont dans l'urgence.
Oui, ils sont prioritaires.
Ils sont prioritaires, vous avez compris.
Voilà.
C'est pour cela, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On appelle les gens à quoi ? À verser la zakat al-fitr à des organismes humanitaires.
Oui, ben moi, c'est ce que je...
Le secours islamique, qui a pour vocation d'aider et d'alléger les souffrances des pauvres dans le monde entier.
Oui.
Et une seconde association humanitaire spécialisée dans la pauvreté en Palestine,
oui,
qui s'appelle le CBSP.
Oui.
Donc, à vous de choisir entre le CBSP, si vous voulez que votre zakat aille,
oui,
spécialement en Palestine,
oui,
si vous voulez qu'elle aille au Rwanda ou en Afrique du Sud ou en Tchétchénie ou en Irak,
oui,
vous envoyez ça au secours islamique et vous verrez que ça ira dans la bouche des pauvres,
oui,
qui sont en urgence parce qu'il y a des degrés de pauvreté.
Oui, voilà. Et par exemple aussi, est-ce qu'on peut l'envoyer aux veuves d'Algérie ?
Vous l'envoyez à qui vous voulez.
C'est possible aussi.
Tant, vous l'envoyez à qui vous voulez tant que cette,
d'accord,
personne qui va recevoir est pauvre.
D'accord.
Que ce soit en Algérie, que ce soit en Rhodésie.
Oui.
Peu importe, je veux dire, il n'y a pas de frontière. Pourquoi ? Pour alléger la souffrance de quelqu'un qui est dans le besoin.
D'accord. Par contre, le secourisme.
Alors, attendez, je vous arrête. n'envoyez pas des kilos de pâtes ni de riz, hein. Envoyez de l'argent.
Non, mais par contre, oui, je voulais revenir aussi sur ce que j'ai entendu tout à l'heure. Et vous avez, enfin, en fait, je parlais toute seule dans ma cuisine et j'ai dit exactement la même chose que vous. C'est que, en définitive, l'orge ou le blé, bon, bah, c'est à une autre époque. On vit à une époque maintenant où, bon, nos savants, ce sont nos savants. Mais moi, je veux dire, ma voisine qui est pauvre et qui n'a rien, je crois qu'elle s'attend plutôt à ce que je vais lui donner, bien sûr, pendant le ramadan, bon, on leur fournit de la soupe, shorba, etc., etc., ce qu'on peut.
Très bien.
Mais je crois que l'argent, on leur donne, ils en font ce qu'ils veulent. Vous en êtes arrivé à exactement la même finalité que moi.
C'est pas seulement qu'ils en font ce qu'ils veulent, ils sont les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin.
Ils ont besoin de, peut-être de vêtements, comme vous avez dit, ou de payer une facture, ou n'importe quoi. Donc, je crois que la nourriture, le jour-là, vaut mieux la donner tous les jours de l'année.
Je vais vous raconter une anecdote. Vous allez... C'est pas une anecdote, c'est ce qui se passe dans certains pays musulmans où certains savants se sont enfermés dans un littéralisme aberrant.
Oui.
Au Caire,
oui.
Vous avez des gens qui, la veille du ramadan, achètent des denrées alimentaires. Généralement là-bas, c'est quoi ? C'est la farine, d'accord ?
Oui.
Les dattes.
Oui.
Alors, les commerçants, qui sont pas bêtes d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils préparent le ramadan. Donc ils stockent des tonnes et des tonnes de denrées alimentaires qui vont être achetées par des gens qui vont verser leur zakat.
Oui.
Donc les littéralistes vont dévaliser les magasins. Le lendemain, c'est-à-dire le jour de l'Aïd, ils distribuent ces denrées alimentaires à qui ? Aux nécessiteux.
Oui.
Les nécessiteux qui se retrouvent chez eux avec 100, 200, 400 kilos de farine.
Oui.
Bon. Un, déjà, pour la conserver, c'est pas évident.
Ouais,
il faudrait-il, en tant que pauvre, déjà qu'ils aient une pièce, une chambre, un cagibi, chose qu'ils n'ont pas. Et troisièmement, ils ont besoin de vêtements pour leur enfant. Ils ont besoin de manger un morceau de viande et non pas de la farine. Alors, vous savez ce que font ces pauvres-là ? Ils prennent ces denrées alimentaires et ils vont les vendre à qui ? Aux commerçants qui les ont vendus la veille à ceux qui versent la zakat. Et bien entendu, les commerçants, comme ils sont pas bêtes, les rachètent ça à bas prix, puisque c'est du chantage. Donc, on se retrouve avec des pauvres qui, au lieu d'avoir 50 euros dans leur poche, en 20 euros, ils ont perdu 30 euros. Et qui a gagné 30 euros ? Ce sont les commerçants qui sont enrichis. Donc, les pauvres se sont appauvris, les riches se sont enrichis. À cause de quoi ? À cause du manque d'intelligence, de pragmatisme, de réalisme, de certains musulmans qui s'enferment dans des interprétations qui n'ont pas lieu d'être.
Oui, non, mais c'est-à-dire que moi, je vais être honnête avec vous. Hein, parce que, bon, d'une personne à l'autre, par exemple, d'un imam à l'autre, à certaines questions que l'on pose, on n'a jamais une réponse définitive et la même que alors, celle à qui on a posé à l'autre imam. Donc,
alors, je vous explique pourquoi.
Voilà, c'est quand
même... qu'il y ait des réponses différentes. Il ne faut pas que ça vous choque, il ne faut pas que ça vous déstabilise, c'est naturel. Moi, je vous préviens en disant, ne soyez pas déstabilisé, dorénavant. Ce que vous faites quand vous posez une question, posez d'abord la question à la personne en qui vous avez confiance.
Mais c'est l'imam.
Non mais attendez, il faudrait d'abord le connaître cet imam, il faudrait d'abord que vous ayez des éléments quand même pour l'apprécier, pour le juger.
Ah ben oui,
il y a imam, et l'habit ne fait pas
L'imam.
C'est bien, bravo.
Maintenant il faut même comparer les imams
et
il faut faire une enquête sur l'imam.
Je n'ai pas dit qu'il fallait faire une enquête, mais vous avez au fond de vous-même quelque chose qui s'appelle et qui est magnifique, qui s'appelle la raison et l'intelligence.
Oui.
Donc faites fonctionner votre bon entendre, votre bon sens, d'accord. Questionnez la personne en qui vous avez confiance.
Oui.
Et on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un si on ne le connaît pas au minimum, si on ne l'a pas entendu parler, si on n'a pas des éléments pour pouvoir le juger.
Oui.
Et deuxièmement, une fois que vous avez questionné la personne, ayez du recul par rapport à ce que vous avez dit.
Oui.
C'est-à-dire, allez, Dieu nous a donné deux lumières pour voir clair sur terre.
Oui.
La première des lumières, c'est la révélation.
Oui.
Ok. Et la deuxième des lumières, c'est la raison.
D'accord.
Vous entendez ?
D'accord.
Et la raison et la révélation sont deux sœurs siamoises.
D'accord.
Qui doivent toujours vivre ensemble et ne jamais se séparer, sinon il y a un déséquilibre.
D'accord.
D'accord ?
D'accord.
truc.
Et ben voilà.
Voilà, ben c'est très bien. Je voulais par contre demander, parce que bon, moi j'ai CBSP à qui j'ai l'habitude de... Mais par contre, le Secours Islamique, j'ai pas d'adresse à part celle de Paris. Donc je voulais savoir s'il y en avait une ici.
Non, 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 c'est celle de Paris qui centralise Paris. Tout.
D'accord. Donc parce que bon, comme je fais... J'envoie là. Donc le Secours Islamique, je vais faire par contre Zakat al-Mal. J'avais appelé la semaine dernière, j'ai bien saisi ce que m'a dit la personne. Mais bon, sur des montants qui sont assez compliqués, il faudrait quand même que je repose la question une prochaine fois, Inch'Allah. Parce que là, l'émission, elle est pas... Elle ne concerne pas ça. Parce que ça aussi, il y a des choses qu'on ne comprend pas, les 2,5, les pourcentages, les calculs.
Je vais vous faciliter. Vous donnez 2,5% de vos économies annuelles. Tout simplement. C'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, le 31 décembre,
oui.
Vous prenez votre stylo, votre calculatrice,
oui.
Vous regardez ce que vous avez comme argent le 31 décembre.
Oui.
Okay. Vous avez 1000 euros sur
oui.
votre compte,
oui.
Vous donnez 25 euros. Point final. Si vous avez zéro le 31 décembre, tout a été consommé,
oui.
Vous donnez rien du tout.
D'accord. S'il y a une partie qui a été consommée.
Elle n'existe plus. Vous n'allez pas donner de la zakat sur quelque chose qui n'existe plus. C'est toute la différence entre le système de la zakat et le système des impôts sur le revenu que nous payons en tant que citoyens.
D'accord.
Nous payons des impôts sur nos revenus en France, c'est ça ?
C'est-à-dire c'est sur une somme que l'on n'a pas touchée du tout.
En islam, nous payons les impôts sur les économies.
D'accord.
Voilà.
Non, c'est parce que moi j'avais expliqué la dernière fois que j'avais eu une certaine somme. Bon, mes parents, Inch'Allah, Rahman, Moussa, Aléa, c'est un bien, un mal pour un bien, comme on dit. Donc, j'ai eu une certaine somme qui est sur un compte. Donc, elle est assez conséquente. Donc, je ne savais pas comment faire parce que je n'y ai pas encore touché. Et donc, il faut que je sorte cette zakat mal, quoi. Donc, en fait, si c'est 2000 euros, bon, bah, je fais 2,5 des 2000 euros.
C'est ça.
Par contre, si sur les 2000 euros, j'ai enlevé 1000 euros, ça veut dire que...
Vous les avez enlevés, ils sont où les 1000 euros que vous avez enlevés ?
Si par exemple j'enlève, c'est un exemple.
Vous les avez consommés ?
Si je les ai consommés.
C'est tout, ils n'existent plus.
Ça veut dire que je ne donne pas de zakat ?
Mais non, puisqu'ils n'existent plus.
D'accord, mais je donne quand même sur les 1000 euros qui restent.
Mais bien sûr.
D'accord. Et l'année d'après ?
L'année d'après, s'il vous reste encore 1000 euros, vous donnez sur 1000 euros. Si l'année d'après, le compte a augmenté et vous avez 10 000 euros, vous donnez sur 10 000 euros.
D'accord. Donc, en
et
fait,
si vous avez 800 euros, vous donnez rien du tout, puisque vous êtes en dessous...
Des 1000.
Des 1000.
D'accord. Très bien, moi j'ai très bien compris.
Alhamdulillah.
Donc voilà, ça
sera pour le secours. C'est bien, on viendra sur... On vous remercie.
Il n'y a pas de quoi, mais moi je vous remercie franchement énormément pour les émissions que vous faites le vendredi, et puis en ce moment le lundi et le mercredi, parce que c'est en français.
On vous remercie.
C'est en français, puis ça nous aide beaucoup, parce que quand c'est franchement en arabe littéraire, etc., je n'y comprends absolument.
Vous n'êtes pas là, ça ne pas comprendre.
Et bah, écoutez, une très bonne soirée, une bonne continuation. Et bon courage à vous, à toute l'équipe, hein, pendant le ramadan, nous on fait passer des bonnes soirées.
Merci.
Merci
beaucoup. Il y a Hamza qui voulait intervenir.
Salam alaikum, hein, donc j'ai rejoint l'équipe. Hassan, je voulais te conter une petite anecdote. On a eu la chance de recevoir mercredi soir ici une sommité, un professeur émérite de l'université Ahmed Jabbar, qui est un spécialiste des sciences islamiques. Et puis il nous a abreuvé de ses paroles et de ses faits. Et il a raconté quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Et qui a réveillé chez moi beaucoup de choses. Il a juste, par rapport aux littéralistes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière plein sud, parce qu'il était à Médine. Et donc, quand on voit géographiquement Médine et la Mecque, c'est plein sud. Pendant 200 ans, on a construit des mosquées énormes en Égypte et partout dans le monde, plein sud. Il a fallu attendre 200 ans pour que des scientifiques réussissent. À l'époque, c'était extrêmement compliqué de calculer la qibla. Donc, les compagnons qui, par littéralisme et par traditionnalisme, se sont dit le professeur Salem faisait la qibla vers le sud. Donc nous,
on prie vers le sud.
On prie vers le sud sans se poser de questions. Sans...
Et ils n'avaient pas les moyens non plus pour...
Aussi. Et donc, il y a des scientifiques qui ont porté ça. Il l'a dit comme ça, en fait. Lui, d'un point de vue scientifique, il l'a dit comme ça. Moi, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que c'est pas, par analogie, la justification de 14 siècles de Usul al-Fiqh ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pense en islam en étant fidèle au prophète, mais seulement, aujourd'hui, Place Feder, la Qibla, elle n'est pas plein sud.
Heureusement.
Voilà, je voulais compter cette petite
anecdote. Elle est magnifique.
Qui m'a moi touché, mais lui, il ne l'avait pas dit dans cette optique. Lui, c'était juste l'effet historique. 200 ans. Et il dit, on retrouve encore des vestiges de mosquées égyptiennes, somaliennes, etc. Plein sud. À bon entendeur, salut.
Pour ce rappel. Quoi qu'il en soit, pour revenir sur Zakat al-Fitr, Inch'Allah, on y reviendra, notamment dans les 10 derniers jours et même avant. On rappelle qu'à partir de mercredi, Inch'Allah, il y a Radio Tour qui commence jusque vendredi en partenariat avec le Secours Islamique. Et Inch'Allah, vendredi prochain, avec le Secours Islamique et Tariq Ramadan qui sera présent pour une campagne justement contre la pauvreté dans le monde. On développera, Inch'Allah, tous ces points. Ouais. C'est tout le point sur Zakat al-Fitr. Il nous reste à peine 10 minutes, Hassan. Puis on va faire une petite pause et Inch'Allah, on conclura juste après.
Je voulais dire, s'il vous plaît, on fait un peu le bilan de la collecte cet après-midi avec Ali. Nous appelons toutes les familles qui mangent à leur faim et qui ont la chance d'avoir des tables garnies le soir. S'il vous plaît, pensez aux gens qui, à quelques kilomètres de chez vous, sont à l'os, ce que d'un Béthune, Longness, et ils n'ont pas grand-chose. Je rappelle, donc il y a un jingle qui passe, mais cette année on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être Hassan nous conseillait d'interpeller les commerçants un peu plus, mais allez, on sait que vous êtes très généreux. Vous pouvez déposer dans différents endroits, à la mosquée, à Luin, à Tawhid, rue de la Lys, chez un particulier 120 rue des Arts à Roubaix. La mosquée Feder, n'hésitez pas, un colis, des dates, un saucisson, des cacahuètes, un paquet de biscuits, s'il vous plaît, envoyez des textos autour de vous et dites aux gens de se mobiliser pour les détenus.
Pour ce rappel, on se... De retour sur les ondes de Pastel FM, 23h passées de 2 minutes, donc vous êtes toujours sur l'émission Prophétie. On rappelle, hein, 3 rendez-vous par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Lundi prochain, Inch'Allah, donc émission que Issa va nous préparer, qui nous fera part, soit à partir du livre Innahu al-Haq, ceci est la vérité. Lundi, oui, Issa, qui nous regarde, qui est à la technique. Mercredi, c'est le Radio Tour, on en parlait tout à l'heure, qui commencera. À partir d'une campagne en partenariat avec le Secours Islamique contre la pauvreté dans le monde. Vendredi prochain, le professeur Tariq Ramadan sera présent dans le studio justement pour échanger sur cette campagne qui commence et qui est lancée par le Secours Islamique. Hassan, on va peut-être conclure sur l'émission. S'il y a des personnes qui veulent intervenir au 03 20 113 59 00 peuvent encore le faire.
Oui, moi je voulais dire, avant qu'il ne soit trop tard, que il faut pas attendre les deux derniers jours, les trois derniers jours pour verser la Zakat al-Fitr. Ouais. Plus elle est versée tôt, mieux c'est pour les associations humanitaires, telles le Secours Islamique, le CBSP, pour gérer la redistribution. En fait, ce que fait le CBSP ou le Secours Islamique, c'est qu'il débloque au début du mois de Ramadan une somme qui correspond à ce qu'ils ont récolté les dernières et un peu plus, pour que ça arrive en temps et en heure dans les contrées désignées. Mais on gérerait encore plus facilement la distribution de ces dons s'ils arrivaient plus tôt et de manière plus scientifique. Donc, votre zakat, vous la versez dès aujourd'hui. C'est l'avis de l'imam Shafi'i, entre autres, qui dit que la première nuit du Ramadan, on peut verser la zakat al-Fitr. Et si entre-temps, il y a une naissance, vous rajoutez la naissance au moment où elle existe, point final. Il y en a, ils attendent après la prière de l'Aïd.
Voilà.
Le matin, on finit la prière de l'Aïd. Oui, mais bien sûr, c'est trop tard, il fallait la donner avant. Mais le pire, c'est quoi? C'est encore ceux qui te la donnent 5 minutes avant la prière.
Voilà. Je le vois à la mosquée.
Voilà. 5 minutes, tu leur dis pendant une semaine, donnez-la 5 minutes avant. Et qu'est-ce qu'on fait le jour de l'Aïd? Voilà.
On a une personne à l'antenne, on va la prendre sur nos
Oui,
allô?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, un peu d'informations, s'il vous plaît. La zakat al-fitr, c'est 5 euros, d'accord. La zakat al-mal, c'est 2,5 sur l'épargne, je crois, si j'ai bien compris.
Oui.
Mais la zakat al-wax, ou wask, si je m'excuse, c'est 5%, mais j'ai du mal à comprendre, c'est basé sur quoi, s'il vous plaît.
En
fait, il n'y a que deux zakat. Hein.
Ah.
Il y a la zakat al-fitr, donc du mois de Ramadan, et la zakat al-mal. Alors, zakat al-mal, c'est sur l'épargne, comme vous dites,
oui.
Mais ça peut être très bien si vous êtes paysan ou agriculteur sur les animaux, sur les récoltes, si vous êtes commerçant, sur les biens que vous vendez, etc. Bon, ce n'est pas votre cas, ce n'est pas le cas de la majorité des gens concernés. Maintenant, vous parlez du waqf. En fait, qu'est-ce que c'est le waqf? Le waqf, ce sont des biens de main morte. C'est-à-dire, depuis toujours, les musulmans, pour gérer justement toutes ces problématiques de pauvreté, ces problématiques de biens publics tels les hôpitaux, les mosquées, etc., qu'est-ce que faisaient les donateurs, les généreux, les gens? Ils donnaient une partie de leurs biens, de leur sadaqa, pour que cet argent aille dans une action qui va durer dans le temps. Par exemple, je vais donner, 2000 euros, et je veux que cet argent serve pour la construction d'un hôpital. Et un hôpital, ça dure des centaines, des milliers d'années. Je veux que mon argent serve pour la construction de puits, ou pour planter des arbres. C'est-à-dire, je demande à ceux qui vont gérer mes zakat d'investir mon argent dans une action qui dure dans le temps.
Pour une pérennité dans l'avenir. Là.
Vous avez compris, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit waqf. Waqafa veut dire s'arrêter. C'est-à-dire mazaka, elle doit s'arrêter sur une action qui dure dans le temps. Et ça, c'est la meilleure des sadaqas.
D'accord.
Merci beaucoup pour votre question.
Je vais m'excuser, mais on doit préciser que c'est pour ce projet-là.
Voilà. Voilà. Le secours islamique entre en contact, il vous dira. Vous choisissez le projet. Vous voulez des puits, vous voulez des hôpitaux, vous voulez des écoles. Vous choisissez l'investissement que vous voulez.
D'accord.
D'accord.
Et avant de vous laisser, s'il vous plaît, vous disiez qu'à moins d'être agriculteur ou autre, mais si on a, je ne sais pas, un simple livret A. On doit prendre 2,5.
Voilà, c'est votre épargne, toujours.
D'accord.
Voilà. D'accord.
Merci beaucoup, madame. On espère qu'on a répondu à vos questions.
Je vous en prie.
On va prendre une autre personne, Inch'Allah.
Bonne soirée, au revoir, merci.
Au revoir.
Oui, allô. Non, on a peut-être perdu la personne.
Non, c'est coupé.
Non. On va peut-être continuer. C'est vrai qu'il y avait plusieurs appels. S'il y a une question, ben, on reprendra... voilà. Donc,
oui, donc, pour conclure, hein, on avait ouvert l'émission avec les événements durant le mois de Ramadan. On avait dit que l'événement le plus important, c'est la révélation du Coran et que le musulman doit, pendant le mois de Ramadan, développer sa relation avec le Coran, que ce soit à travers la lecture, l'écoute ou la compréhension ou la distribution généreuse de Coran, ceux qui n'en ont pas, de cassettes, de CD, faire du rappel autour du Coran. Je vous raconte une anecdote. J'ai rencontré une personne âgée qui est à la retraite, ancien enseignant, et cette personne, ouvrez bien vos oreilles, qui a 73 ans, me dit, on parlait comme ça, on a fait connaissance, elle me dit, est-ce que vous savez que tous les soirs je lis le Coran? Elle n'est pas musulmane. Je lui dis, ah bon? Vous m'étonnez. Elle me dit, oui, tous les soirs je lis une sourate du Coran. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que l'islam, c'est très intéressant, et si je devais retourner en arrière et avoir 20 ans, je me convertirais à l'islam. Parce que c'est ça la vérité. Donc cette personne, alhamdoulilah, qui en apparence, si elle ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas su, n'était pas intéressée ou n'est pas intéressée à l'islam. Et en vérité, elle a son Coran traduit en français qu'elle lit tous les soirs. Donc vous voyez comment le Coran peut avoir un impact sur une personne si elle le lit. C'est pour cela, n'hésitez pas, pendant le mois de Ramadan, à aller à la librairie Saphir, rue de l'Apple. Vous achetez 5, 10 Corans et vous les offrez en cadeau à toute personne que vous pensez qu'elle ne connaît pas le Coran. Comme ça, ça permettra justement aux gens de mieux connaître l'islam et les musulmans pour les apprécier. Et s'ils ne se convertissent pas, au moins, ils respecteront les musulmans qui sont pratiquants. Parce qu'avec cette propagande anti-musulmane, matin, midi et soir, on l'a connue il y a deux jours avec le 11 septembre, hein, ce sont les musulmans. C'est sous-entendu, hein, c'est pernicieux, c'est vicieux, qui sont responsables, c'est l'islam qui est responsable. On le voit dans notre entourage quand les gens en parlent. Donc il n'y a qu'une manière de casser cette propagande anti-musulmane, c'est justement de remettre entre les mains des gens le Coran, des livres qui tournent autour du Coran, pour que les gens aient un regard impartial. Hein? Parce que le problème, c'est qu'ils n'entendent qu'un son de cloche. Hein? Et moi, je ne suis pas contre le fait que les gens critiquent le Coran, critiquent la religion musulmane. Au contraire, c'est normal et naturel et ça ne me dérange pas du tout puisque le Coran est truffé de versets qui ne sont que les critiques des détracteurs de l'islam. On adore Dieu en lisant des versets dans le Coran qui sont des versets qui expriment les points de vue de ceux qui sont contre la religion musulmane, des ennemis des prophètes. Donc la critique ne nous dérange pas. Ce qui nous dérange, c'est quoi? C'est l'injustice vis-à-vis du Coran, vis-à-vis de toute autre pensée ou religion.
On va prendre une question. Oui, allô?
Allô?
Oui,
allô?
Salam alaikum.
Salam, Fatoula.
En fait, j'étais en train d'écouter par pur hasard la radio. Le frère Hassan, il parlait d'offrir des Corans aux personnes qui... pour qu'on puisse intéresser les gens en islam.
Mmh.
Mais il y a un truc, en fait, qui me fait mal de nos jours, c'est qu'il y a des personnes qui s'y connaissent en religion, alhamdoulilah, qu'ils ont baigné dedans, mais au niveau de la pratique, c'est pas ça. Et moi, je trouve déjà, dans un premier temps, ce serait bien de leur faire des rappels à eux, et après, aller voir les personnes qui ne connaissent pas, quoi.
Alors, vous avez entièrement raison qu'il y a beaucoup de musulmans, malheureusement, qui ne connaissent pas bien leur religion, et certains, quand ils la connaissent, ils la pratiquent pas, ou ils la pratiquent peu, ou ils la pratiquent pas comme il se doit. C'est un constat, personne ne peut le nier. Notre devoir, c'est de rappeler à nos frères et à nos sœurs musulmanes leur devoir, en essayant d'être des modèles et des exemples, et en rappelant avec sagesse, avec intelligence, avec douceur, avec patience, et avec amour, les bien fondés, les bienfaits de cette religion. Et l'un n'empêche pas l'autre, vous entendez? Le fait de faire le rappel à nos frères. Et de permettre aux non-musulmans d'apprendre et de découvrir cette religion ne sont pas deux actions qui sont contradictoires.
Oui, non, c'est clair.
D'accord. Moi, je pense qu'il faut... Tout est complémentaire. Mais... Allez, quand on tombe sur des musulmans qui ne connaissent pas, qui ne pratiquent pas, on leur fait le rappel. Et quand on croise des gens qui ne connaissent pas, on leur fait des cadeaux. D'accord,
ouais. Inch'Allah, Inch'Allah. Mais il y a un souci aussi, c'est que... Le problème, c'est qu'il y a un manque de science et de comportement envers des frères qui fait que quand on rencontre des non-musulmans, ils stigmatisent direct l'islam.
Oui, alors comment justement régler ce problème? C'est à vous et à tous ceux qui nous entendent, qui ont un minimum de conscience et qui sont comme vous préoccupés par la situation de la communauté, de réagir. Et comment réagir? C'est à travers le dialogue. D'accord? Vous dialoguez, et puis si vous êtes généreux, vous offrez des cadeaux très intéressants, qui sont des livres qui parlent de la religion. D'accord?
Barakallahu
fik, mon frère. Hein. Continuez.
Hassan, peut-être ce que ce jeune homme veut dire, effectivement, on le voit, parce que sur Roubaix, par exemple, on parle simplement sur Roubaix, il y a 5 grandes mosquées. Dans la logique, il devrait avoir 5 référents, qui sont eux-mêmes les imams.
Tout à fait.
Je me suis dit que nous, on a des imams à chaque coin de rue. À Roubaix, on a des savants qui naissent de jour en jour. Qui hier, effectivement, je me rappelle d'une des phrases d'un de mes grands frères qui avait interpellé un pseudo-savant. Qui lui a dit, heureusement que tu es venu, parce que depuis la mort du prophète sallam, tous ceux qui sont morts après le prophète sallam, ils vont tous en enfer. Heureusement que tu es venu pour me sauver mon âme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, on a des savants ils sortent de je sais pas où, qu'ils ont justement avec des termes de Timia et ainsi de suite, sans regarder dans le côté, attends, il y a d'autres ouvertures, il y a même l'imam de Feder qui dit aujourd'hui, il faudrait, et même l'ancien imam qui est resté 14 ans quand même chez nous, qui disait, il faudrait que les savants se posent de la question de l'islam en Europe, rapidement.
Bien sûr.
C'est pas la même chose, donc il faut qu'on arrête le délire de sortir, je dis, bientôt on va se balader avec des chameaux ici. Ça va être peut-être imposé, on aura peut-être, je sais pas. Donc aujourd'hui, pour moi, j'ai 5 référents dans le Nord.
Allah, avec.
Bon, on va prendre une dernière question et après on arrivera inchallah au terme de l'émission. Allô? Allô?
Oui, salam alaikum, c'est moi qui viens de raccrocher.
Oui.
En fait, c'est parce qu'il y a le frère qui vient de me faire réagir, là, c'est le frère qui vient de parler.
Oui.
C'est vrai que de nos jours, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand on parle de philosophie à un frère, il connaît pas. Quand on parle de maths, il connaît pas. Quand on parle de mécanique, il connaît pas. On peut parler de tous les sujets, ils connaissent pas. Mais on parle de religion, c'est tous des savants. Ils connaissent tout aujourd'hui.
Tout à fait.
Ils ont des réponses à tout.
Non, c'est clair. Et à titre d'info, ils ont ni CAP, ni BEP, ni BAC. Je te confirme qu'ils ont simplement, ils ont regardé sur Internet, alhamdoulilah qu'ils ont Internet chez eux, où ils téléphonent en Arabie Saoudite pour poser une question bien précise. Effectivement, après un retour, après ils alimentent comme s'ils avaient une science, mais pas simplement ces questions, simplement de lui dire au frère, dis-moi les obligations dans la prière et les obligations dans comment se laver et les obligations, tu verras que le gars va être un peu bloqué, quoi.
Et encore, même le fait de téléphoner en Arabie Saoudite, on sait très bien que déjà ici sur Roubaix, ça fait beaucoup de fitna
complètement.
Là-bas, on sait très bien là-bas, ils sont écœurés des gens de France et surtout des gens du Nord.
Ouais, surtout, tu peux dire de Roubaix, tu peux préciser la ville de Roubaix.
On peut dire, parce que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas bien, c'est monter les ulama entre eux, ils ont appelé les ulama à leur dire, ouais, est-ce que ça c'est halal, est-ce que ça c'est haram, la réponse leur convenait pas, et c'est assez important que les auditeurs le sachent aussi.
Ouais, tout à fait.
Que, ils ont appelé les ulama leur demandant si ça c'est halal, ça c'est haram, le ulama il a pas répondu comme le frère voulait entendre, donc il a appelé d'autres ulama, il leur a dit, ouais, mais l'autre ulama il m'a dit ça, et c'est des choses qui se font pas, il y a un comportement qui s'est énormément perdu.
Pour pas perdurer dans le sujet, et moi je réponds toujours à ces personnes-là, si vous êtes vraiment dans le droit chemin, faites une mosquée, mais ils sont incapables. Parce que donner un euro pour la mosquée, pour les frères qui sont en Palestine, ou pour redonner des colis aux gens en prison, ils sont incapables, donc gérer une mosquée, je crois pas. Donc on n'est pas prêt de voir ces gens-là fonder des mosquées, donc je dis pas qu'il n'y a pas risque, mais il faudrait qu'on se méfie de ces gens-là, en sachant que l'islam, alhamdoulilah, c'est une religion belle, de tolérance, d'amour, de respect, et ainsi de suite. Et notre religion, alhamdoulilah, inna al-din 'indallahi al-islam, c'est celle qu'Allah a agréée parfait. Donc moi ces gens-là ils me touchent pas, ils font pas de mal, hormis quand ils viennent sortir leur science, quoi.
Exactement.
Mais continue mon frère.
On vous remercie pour vos contributions sur une réalité qui est a priori roubaisienne, mais je pense que le problème est
régional,
national et international. Mondial. Voilà, donc on va terminer sur ces paroles et on se retrouve quant à nous lundi à partir de 20h. Et on aura le plaisir d'entendre notre frère Aïssa. Salam alaikum wa
rahmatullah.
Pastel FM. Pastel FM. La civilisation et la culture musulmane sont les parents pauvres de l'histoire. Cette civilisation prodigieuse qui a profondément marqué de son empreinte l'histoire de l'humanité reste cependant mal connue. Pour la découvrir, un voyage dans le temps et l'espace vous est offert le vendredi de 20h à 22h au cours de l'émission La Prophétie. Cette émission, animée par des personnes compétentes dans leur domaine respectif, vous est présentée par Pastel FM 99.4 en collaboration avec l'association Rencontre et Dialogue. Un projet de solidarité est lancé en direction des détenus de la région de Lille. À la veille du mois du Ramadan, nous souhaiterions faire parvenir des colis spécial Ramadan pour les jeûneurs incarcérés. Pour ces personnes démunies de biens et de liberté, savoir qu'on n'est pas seul au monde peut faire renaître l'espoir dans les cœurs. Seulement 4 choses pour composer ce colis. 1 kilo de dattes, un saucisson halal, un paquet de cacahuètes et un paquet de biscuits. Vous pouvez déposer ce colis soit au 61 rue Jeanne d'Arc, 59 650 Villeneuve d'Ascq, ou 301 rue Jules Gued, à Énergie, 59 100 Roubaix.
Association AJTF AM, Maille du Nant. Association Mosquée Tawhid à Aluin. Pour toute info, 03 20 47 68 00. 03 20 47 68 00.
Nous pouvons leur redonner le sourire. Faisons-le ensemble.